Dakar. Cette principale compagnie minière opérant en RDC et produisant 85% de la production de cuivre, de cobalt et d'or du pays ont décidé de quitter la Fédération des entreprises du Congo. Dans un communiqué publié la semaine dernière et signé notamment par Randgold, AngloGold, Ashanti et Glencore, ces entreprises affirment ne pas être représentées de manière adéquate par la FEC. Quelle analyse faire de la décision de ces opérateurs miniers? C'est la question de l'émission et nous en parlons avec Israël Moutala. Il est journaliste, il est aussi analyste politique et économique. Bonsoir Israël Moutala.
Bonsoir Guy Maté.
Franck Fouamba, consultant et analyste expert du secteur des mines. Bonsoir Monsieur Franck Fouamba.
Bonsoir aux éditeurs Radio Capus.
Et lui va nous rejoindre, c'est Jérôme Sekana, il est journaliste économique et directeur de l'agence Galaxy Media. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les principales sociétés minières de la RDC qui estiment ne pas être représentées de manière adéquate par la Fédération des entreprises du Congo ont pris la décision jeudi 15 mars dernier de quitter cette organisation patronale avec effet immédiat. Les détails avec Alain Hirung.
Dans un communiqué commun, ces sept sociétés représentant 85% de la production de cuivre, de cobalt et d'or du pays expliquent que la Fédération des entreprises du Congo ne représente pas leurs intérêts de manière adéquate. Une critique qui vise directement, tout en ne les citant pas nommément, Albert Yuma Mulimbi, président de la FEC depuis 2005 et également président de la GECAMINE, la société minière de l'État congolais. Sous cette casquette, ce dernier avait lors du forum Mining Indaba, début février au Cap, signifie à ses 17 partenaires privés internationaux de la GECAMINE du lancement au second semestre de 2018 de la renégociation de l'ensemble de leurs conventions, les accusant d'avoir spolié le pays et sa population et n'hésitant pas à évoquer des pratiques délictueuses. En 2016, les sociétés internationales minières présentes au Katanga ont réalisé 2,6 milliards de dollars de revenus sur lesquels seulement 88 millions de dollars ont été versés à la GECAMINE. C'est inacceptable, avait lancé Albert Yuma en présentant les premiers résultats d'un audit réalisé par le cabinet Mazar.
Merci à vous Alain Hirung. Jérôme Sekana, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste économique et directeur de l'agence Galaxy Media. La décision de ces sept entreprises minières de se retirer de la FEC, comment vous l'analysez?
Oui, c'est un droit légitime. Vous savez, les opérateurs miniers se sont plaints du fait que leurs desiderata n'ont pas été bien communiqués au débat qu'il y a eu au niveau de nos deux chambres du Parlement, débat en rapport avec... La mise sur pied du code minier qui venait d'être promulgué par le chef de l'État. Mais il faut quand même comprendre que le gouvernement a fait preuve de patience. Dans la mesure où le code minier qui venait d'être révisé était promulgué le 11 juillet 2002 et que au lendemain du 11 juillet 2012, conformément au terme de ce code qui disait que il ne devrait pas être retouché avant 10 ans, ces codes étaient déjà révisables. Mais on n'a pas révisé ces codes en 2012. Il a fallu attendre 6 ans. 6 ans pendant lesquels il y a eu des discussions. La société civile, tous les miniers étaient approchés et c'est pendant cette période-là que les miniers pouvaient faire entendre leur voix et dire que, écoutez, nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela. Alors, les gouvernements nous avons suivis et ils se plaignaient par moments en disant, écoutez, nous avons besoin des miniers, mais ils nous envoient des gens qui n'ont pas le pouvoir des décisions. Et ils sont à Indaba, on suivait comment les gouvernements se plaignaient. Et les gouvernements ne devraient pas attendre indéfiniment. Ce qui fait que, 6 ans après, le gouvernement a bouclé les consultations et les codes miniers étaient déposés au Parlement où il y a eu encore un autre débat. Je ne sais pas si c'est à ce niveau-là, parce que ils se sont retirés de la FEC, ce n'est pas pour partir, comme j'entends les autres dire. Ce n'est pas pour partir. Ils se sont retirés de la FEC pour constituer un patronat minier. Et pourquoi? Parce que ceux qui se sont retirés pèsent 85% de la production minière en République démocratique du Congo. Alors ils se disent, si nous sommes entre nous...
Ils constituent une autre organisation patronale.
Bien sûr, oui, mais jusque-là on était habitué à avoir seulement la FEC. Maintenant là, on pourra s'habituer à avoir peut-être un syndicat qui s'occupe exclusivement des problèmes miniers. C'est celui-là, ils sont en train de constituer les papiers, ce qui est aussi notre constitution ne l'interdit pas. Si c'est de cette manière-là qu'ils peuvent faire entendre valablement leur voix, nous applaudissons de demain. Mais il faudra qu'ils puissent aussi se conformer aux desiderata du peuple congolais. Pourquoi ? Parce que la clause de stabilité à laquelle ils font allusion a été respectée et largement respectée dans le premier code. Parce qu'au lieu de 10 ans, on est allé jusqu'à 16 ans. Et maintenant, cette clause de stabilité est revue à la baisse, c'est-à-dire on pourra retoucher à l'actuel code minier dans 5 ans. Ce qui fait que ils pourront également faire prévaloir leur desiderata dans 5 ans. Mais il y a une porte qui a été ouverte.
Pour les miniers qui commencent, n'est-ce pas?
Mais bien pour sûr, ceux qui sont déjà là. Il y a une petite ouverture qui est, c'est-à-dire les travaux qui ont déjà d'ailleurs commencé au ministère des Mines. Les préparatifs sont très avancés en ce qui concerne la mise sur pied du règlement minier qui sera signé par le Premier ministre. Là, le gouvernement va analyser leur desiderata au cas par cas, filière par filière, ce sont les dires du ministre de Mines, Martin Kabouéloulou, et en ce moment-là, on pourra voir comment rencontrer leur desiderata sans toutefois modifier une seule virgule du code minier qui est une loi.
Vous l'avez n'est-ce pas relevé ici, ces opérateurs miniers se plaignent du fait que leurs desiderata n'ont pas été bien communiqués, mais aussi, est-ce que Monsieur Albert Youma, vu sa double casquette, il est à la fois président de la GECAMINE et de la FEC, est-ce qu'il avait assez de marge de manœuvre, n'est-ce pas, par rapport à ces débats sur les codes miniers?
Je ne peux pas me faire l'avocat du diable, mais au moins, je dois reconnaître que le président Youma s'est reconverti. Je me souviens avoir eu des débats houleux avec lui à Washington et à New York, parce que nous lui reprochions le fait qu'il protégeait trop les miniers au détriment du trésor public. Parce que, comme vous le savez, le code minier qui venait d'être révisé accordait une part belle aux miniers. Et lui, il n'a pas deux casquettes, il a trois casquettes. Parce que il est bien sûr président de la FEC, il est aussi président du conseil d'administration de la GECAMINE, mais il est aussi à la Banque centrale. Il est aussi à la Banque centrale. Ce qui fait que, bon, avec toutes ces casquettes, on ne sait pas quelle est la casquette qu'il brandit lorsqu'il y a des négociations. Et puis, il a développé un comportement qui a énervé les miniers. À Indaba, son discours était tranchant. D'abord, il n'a pas assisté à certaines réunions que le ministre avait organisées. Et puis, les miniers qui sont venus ici, qui ont été reçus, les 7 patrons qui ont été reçus par le chef de l'État, ont négocié. On cherchait à le rencontrer pour discuter. Il a dit, je ne vous reçois pas. Je vous attends à Kinshasa au mois d'avril. Comme la GECAMINE doit revisiter les 17 contrats de joint venture, parce que les parts de l'État seront revues à la baisse, plutôt à la hausse, des 5 à 10%. Et surtout, le partage, non seulement de la production, mais également le partage de ce qu'on appelle les super profits. Donc déjà, il y avait de l'énergie en l'air. Il a fait monter la barre très haut. Et c'est ça qui a énervé un peu les miniers, parce qu'on les a touchés au portefeuille. Vous savez, ce ne sont pas des philanthropes. Quand ils viennent ici, c'est pour gagner de l'argent. Et quand on leur prend suffisamment assez par rapport à ce qu'ils gagnent, ils ne peuvent que s'énerver. Mais je félicite beaucoup le chef de l'État, parce que si le chef de l'État ne les avait pas reçus, je peux vous garantir qu'on allait déjà vivre une autre guerre télécommandée, parce que la plupart de ces miniers, ce sont ces miniers-là qui financent les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Mais il a fallu les écouter, et c'est une preuve qu'il y a un dialogue permanent au sommet de l'État. Parce que quand on accueille un client qui achète beaucoup, un grand client, c'est avec les sourires.
Mais aussi,
et on lui donne une tasse de café. Et en Asie, on ajoute des fleurs et même des fruits naturels.
Jérôme Sekana, vous pensez que la promesse leur faite par le chef de l'État, selon laquelle leur cas serait examiné au cas par cas, vous pensez que cette promesse les a arrangés? Est-ce que cette décision de quitter la FEC ne reflète-t-elle pas leur mécontentement par rapport à la promesse?
Mais bien sûr, c'est leur droit d'être mécontent. Mais je peux vous garantir qu'ils ne vont pas partir. Ils ne vont pas partir pour la simple raison qu'il y a une embellie sur le marché international. Je vous informe que le monde a besoin par an des 100 000 tonnes de cobalt. Or, sur les 100 000 tonnes de cobalt dont le monde a besoin pour les batteries électriques et tout ça, 80% de ces cobalt proviennent de la République démocratique du Congo. Merci. La Chine est en deuxième position, mais la production de la Chine est tributaire des exportations de la République démocratique du Congo. Ce qui fait que avec cette embellie où on constate que la tonne métrique est aujourd'hui à 87 dollars, alors que on espère, selon les experts, que cette tonne pourrait être négociée à plus de 100 000 dollars d'ici la fin de l'année, je ne vois pas les miniers partir.
Voilà, donc je crois que c'est cet enjeu-là qui est à la base de la colère de ces miniers. Israël Moutala, journaliste, vous êtes analyste politique et économique. Comment vous comprenez la décision des entreprises minières?
Jérôme l'a dit, voilà, je pense qu'on a touché, en révisant le code minier, on a touché au cœur du code minier. Le cœur du code minier, pour les miniers, pour les opérateurs miniers, c'était la clause de stabilité de 10 ans qui existait dans le code de 2002. Et donc, c'est une clause qui les mettait à l'abri pendant 10 ans contre tout changement négatif sur le en termes de régime douanier, en termes de régime fiscal, en termes de régime de change. Et donc, ils avaient cette garantie que, quels que soient les changements ultérieurs qui peuvent survenir, on ne touchera pas à leurs droits pendant une période de 10 ans à dater de la modification de la nouvelle loi. Or, aujourd'hui, on se rend compte que la clause de stabilité a été écarté. On a mis une nouvelle clause de stabilité de 5 ans. C'est-à-dire même leurs droits aujourd'hui dans le nouveau code ne sont garantis qu'après 5 ans. Bon, c'est qui démontre quelque part que ils sont pas à l'abri d'un nouveau changement de la règle du jeu après 5 ans. Ce qui fait que sur un cycle minier, c'est qui est court, parce qu'un cycle minier...
Mais aussi, le changement peut intervenir à tout moment, n'est-ce pas?
Le changement peut intervenir à tout moment, même dans l'ancien code...
Ce n'est pas évident.
Même dans l'ancien code de 2002, le changement pouvait intervenir en 2003, en 2004, en 2005. Mais une fois que le changement intervient, et que si ces changements-là est négatif par rapport à leurs intérêts, par rapport à tous les privilèges qu'ils avaient dans l'ancien code, il fallait attendre 10 ans pour que les nouveaux changements négatifs, je dis bien négatifs, parce qu'en cas de changement positif, ils s'appliquaient à eux tout de suite. Et donc, on a touché au cœur du code minier, qui est la clause de stabilité de 10 ans. Et là, ils étaient absolument très fâchés. Et donc, aujourd'hui, la redevance minière est passée pour les métaux de base de 2 à 3,5, pour les métaux stratégiques de 10%. Bref, on a modifié un peu la clé de répartition de la redevance. Il y a eu des changements, l'actionnariat et tout ça. Mais si la clause de stabilité était maintenue, ces nouveaux changements n'allaient pas s'appliquer à eux. Ils allaient s'appliquer à eux 10 ans après. Ça veut dire, nous sommes en 2018, comme on a fait la révision, l'a promulguée en 2018, il fallait attendre 2028 pour que les nouveaux changements s'appliquent à eux. C'est ce que avait décidé l'État congolais en 2002. Voilà pourquoi ils sont furieux, parce que là, ils sont pris au dépourvu. Mais ce qu'a dit Jérôme est aussi vrai, ils partiront pas. Écoutez,
clause de stabilité change, c'est vrai, mais le chef d'État a tenté, n'est-ce pas, de rassurer ses opérateurs miniers en leur proposant, n'est-ce pas, d'examiner leur situation au cas par cas. Est-ce qu'ils étaient convaincus? Est-ce que cette décision, j'ai posé la même question à Jérôme Sekana, cette décision ne reflète pas leur déception? Peut-être que lorsque le code minier a été promulgué, ils se sont dit les dés sont jetés, on ne peut plus rien espérer.
Non, mais ils sont pas stupides, ils sont futés. Le chef de l'État les a endormis, il les a écoutés poliment, mais on ne peut pas revenir en arrière, impossible. Ça veut dire, pour qu'on revienne en arrière, il faut une nouvelle loi. Parce que même le règlement minier, il doit se conformer à la nouvelle loi.
Le règlement minier, il va changer quoi? Parce qu'on a l'impression que le règlement va apporter quelque chose de nouveau. Non. C'est des textes d'accompagnement, n'est-ce pas, qui vont expliquer les modalités d'application du code des miniers. Ça ne va rien apporter comme modification.
Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, la Constitution dit on a le droit à un emploi décent, le droit au travail. Ça, c'est un principe. Mais comment est-ce qu'on le matérialise? On le matérialise avec ce qu'on appelle des décrets d'application. Mais bon, aujourd'hui, on n'a pas encore les moyens, justement, de faire en sorte que le droit du travail soit accessible à tout le monde. Donc, dans la même chose avec le code minier. Le code minier, il donne, justement, les grandes lignes, il fixe le cadre, et le règlement minier ne peut pas s'écarter du cadre fixé par le code minier. C'est impossible. Et donc, je disais tantôt.
Non, on peut dire qu'ils ont été,
le chef de l'État est poli, donc il les a reçus, mais voilà. Mais il fallait donc, il les a reçus, il les a écoutés, mais, voilà, absolument. On ne peut pas examiner au cas par cas. Non, c'est pas possible. Donc la loi, elle est impersonnelle, elle est générale. Et donc, on va pas commencer à dire, toi, c'est Glencore, on va pas appliquer un taux de 3,5%, on t'applique un taux de 2%. Toi, la liste de biens et équipements éligibles à l'exonération va passer, on va élaguer. Non, 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 la loi, elle est là pour tout le monde.
Moutala, vous savez, tout est possible, n'est-ce pas? Si le gouvernement congolais se sent acculé, si ces miniers exercent beaucoup de pression et que le gouvernement se sent acculé, est-ce que le gouvernement ne va pas céder de façon subtile? C'est-à-dire que, bon, le gouvernement donne l'impression que le code a été promulgué, il sera appliqué, mais à travers les règlements miniers, le gouvernement, n'est-ce pas, viole les clauses de ces codes miniers. Est-ce que le gouvernement ne va pas céder?
Non,
s'il se sent acculé.
Ça sera compliqué. Si l'État congolais veut céder, et donc il n'a qu'à initier un nouveau projet de loi qui intègre les désirata des miniers, qui seront repris maintenant dans la nouvelle loi. Donc il faut qu'il réforme à nouveau une nouvelle loi. Mais en l'état actuel, c'est pas possible que l'État réforme sa loi. Il faut passer par le Parlement. Donc principe de parallélisme de forme, donc il ne peut pas. Donc même le règlement, ça sera difficile même avec le règlement de tricher avec ça. Parce que c'est quand même assez clair. L'arrêt des vents, c'est clair. L'actionnariat, l'ouverture de l'actionnariat est claire. La sous-traitance est claire. La clé de répartition est claire. Le fonds minier est clair. Donc, toutes les innovations sont claires. Donc, on ne voit pas comment est-ce que le règlement minier peut s'en écarter. Donc, ils sont fâchés. Ils ont raison d'être fâchés parce que on a frappé au portefeuille. Ils ont raison d'être fâchés parce que taux de rentabilité interne a été perturbé. Ils sont fâchés pour plusieurs raisons qui sont légitimes du point de vue d'un capitaliste. Et donc, mais ils ne quitteront pas le pays parce qu'une mine, ils ont levé des milliards de dollars, ils ont construit les mines sont là, ils ont des gisements qui ont une forte valeur. Et c'est pas du jour au lendemain qu'on va fermer ces clics
et se retirer. Ces entreprises représentent à elles seules 85% de la production des minéraux, n'est-ce pas, dans ces pays. Et n'est-ce pas qu'il est mieux, n'est-ce pas, de voir ces entreprises au sein d'une structure comme l'AFEC. Au moins là, on sait maintenir les contacts. Parce qu'en dehors de l'AFEC, comment on peut les contrôler? Et ce serait imprudent, n'est-ce pas, de la part d'un État de ne pas avoir la possibilité de contrôler les gens qui détiennent 85% de la production des minéraux.
Non, pas besoin d'être à l'AFEC pour ça. Ça veut dire que nous sommes dans un pays démocratique, ou en tout cas supposé démocratique, ou qui veut être démocratique. Ça veut dire que la liberté d'association est libre. Donc, ils ont adhéré librement à l'AFEC, ils peuvent aussi quitter librement à l'AFEC. Mais quitter l'AFEC ne veut pas dire que le dialogue est rompu. Parce que vous voyez que autour du chef de l'État, ils n'étaient pas vraiment déjà allés dans le cadre de l'AFEC. Donc l'AFEC était en face d'eux avec Albert Yuma. Et donc ils étaient, comme disait quelqu'un déjà, c'était déjà le G7 minier. Donc c'est un syndicat des miniers, des patrons des miniers qui se sont regroupés. Donc ils ont le droit de s'organiser en syndicat pour défendre au mieux leurs intérêts. Donc pas besoin forcément d'être membre de l'AFEC pour défendre ses intérêts. Donc l'affiliation à l'AFEC n'est pas obligatoire. On peut y adhérer tout comme on ne peut pas y adhérer. Et donc vu leur force financière, ils peuvent se passer de l'AFEC superbement.
Franck Kwamba, consultant et analyste expert du secteur des mines, votre analyse par rapport à cette décision des opérateurs miniers?
Aucune surprise, Alain, aucune surprise, parce que, bon, contrairement à ce que mes prédécesseurs viennent de dire, les sept grands ne sont pas partis de l'AFEC parce qu'il y a eu promulgation du code minier. Ça fait plus d'un an qu'ils menaçaient déjà de partir parce qu'ils n'étaient pas contents de certaines choses. Il y a des frictions entre FM et la Chekamine autour du DGA qui a été nommé et que FM n'a pas accepté. Il y a eu pratiquement un problème entre le DG de TFM, M. Paulet, et le PCA de la Chekamine, Albert Yuma, qui n'a pas accepté. En fait, au Katanga, où il y a la plupart, depuis plus d'une année, on parlait déjà de la chambre des mines de blanc. Mais écoutez, tout ce qui s'est dit, c'est bon. Je pense que le grand problème aujourd'hui, j'aborde un peu ce que Jérôme avait dit. Vous savez, la vie d'une mine moyenne, c'est pratiquement 15 ans. C'est 15 ans. Le code minier a été revu pendant que certains gisements sont épuisés. Rush Mining, pratiquement, Rush Mining, MMG, les autres, dans 5-6 ans, ils n'auront plus de gisements. Qui va perdre? C'est la République qui va perdre. Je pense que le grand problème des miniers qui s'est posé, le temps, ils ont mal géré le temps. Et le temps joue en leur défaveur. Ils ont eu trop de temps pour que le code minier et les discussions aboutissent, mais ils n'avaient pas voulu que ça aboutisse. Et aujourd'hui, avec la flambée du cobalt, le gouvernement de la République a dit, écoutez, j'ai saisi l'opportunité et j'exerce la souveraineté. Et là, ils doivent accepter. Je pense que le grand problème qu'ils ont, c'est beaucoup plus... je ne crois pas plutôt dans le problème de stabilité. Parce que la plupart des projets, à part le projet, à part le groupe Ivanhoe, avec Kamoa et Kiko, la plupart de ceux qui sont partis, ce sont des projets déjà en production. Il n'y a qu'Ivanhoe qui pourra entrer en production à la fin de cette année ou l'année prochaine. Et d'ailleurs, Ivanhoe, dont le président Robert Freeland, il est très modéré. Lui, pour lui, le problème n'est pas le problème des taxes ou des nouvelles taxes ou des nouveaux impôts. Pour lui, le sérieux problème, c'est le problème de juguler la corruption. Il a dit à Maïnini là-bas. Quand le président Yuma, dans cette histoire avec les miniers, le président Yuma ne se présente pas comme le président de la FEC. Et ça, il a dit à Maïnini là-bas. Il se présente comme le président de la GECAMINE. Il se présente comme le partenaire des investisseurs qui viennent. Ça, les gens doivent le comprendre. Et en tant que partenaire, en tant que président de la GECAMINE, dont l'actionnaire, c'est l'État congolais, il se présente pour défendre les intérêts de l'État d'abord. Et là, d'ailleurs, il a dit, écoutez, au mois de mai, s'ils ne veulent pas que je sois là, qu'ils ne votent pas pour moi, mais je continuerai à défendre les intérêts de la GECAMINE. Je pense qu'il fallait défendre les intérêts de la GECAMINE, les intérêts de l'État. Vous savez, quand on a écrit les business plans, par exemple, le prix du cobalt était à quel prix? Au début de 2016, la tonne de cobalt était à $24,000. Aujourd'hui, elle est à $84,000. Vous voyez le gap, vous voyez la différence qu'il y a.
Voilà. Franck Fomba,
elle devait être produite à combien?
Franck Fomba, yes, oui. N'est-ce pas l'enjeu économique que représente le cobalt qui peut, n'est-ce pas, expliquer la colère de ces miniers?
Il y a trop de lobbies. Autour du cobalt. Si vous remarquez bien, depuis qu'on a promulgué les codes miniers, les lobbies occidentaux, qui sont faiseurs de leçons, ils disent non, voilà, le Congo devient un pays instable parce qu'il y a un nouveau code. Mais ils oublient qu'avec l'ancien code, les miniers ont beaucoup profité. C'est ce que je dis là. Quand la plupart présentaient le business plan, la tonne de cobalt était à combien? La tonne de cuivre était à combien? Qu'est-ce qu'une royalties? Une royalty, ce n'est pas une taxe. Une royalty, c'est une redevance que l'on paye au propriétaire de quelque chose. C'est comme nous, les journalistes, comme les musiciens, comme les auteurs, comme les cinéastes. Quelqu'un veut utiliser le label de l'autre. Il lui paye une royalty en français facile. C'est comme un droit d'auteur. C'est un droit de propriété. C'est pas l'impôt. Mais seulement, je pense qu'ils doivent être souples en négociant. Aujourd'hui que la loi a été votée, c'était normal que l'État dise que le cobalt a triplé de prix et que je peux aussi tripler mes royalties. Aujourd'hui, les miniers seraient réalistes de se battre avec toutes les autres entreprises pour plutôt se battre sur le terrain de la fiscalité générale de la RDC. Parce que là, nous devons nous le dire, trop d'impôts sur l'impôt. Quand ça monte, avec la royalties qui n'est pas un impôt sur les bénéfices ou sur le profit, effectivement, ça peut impacter sur certains coûts de production. On l'a vu en Zambie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. A eu lieu en Zambie 2015-2016. Quand la Zambie avait augmenté ses royalties de 3 à 9, il y avait la même agitation. Après, la tempête s'est calmée. Parce que, et puis le gouvernement a vu, et puis on a revu certaines taxes.
Franck Fomba.
Donc, pas dans le code minier.
Franck Pamba, vous demandez à ce que les miniers puissent être souples. Est-ce que vous ne ferez pas la même recommandation au gouvernement congolais? Vous avez relevé le fait que trop d'impôts tuent l'impôt. Lorsqu'on revoit à la hausse la redevance parce que le cobalt est devenu le minerai, n'est-ce pas, stratégique, est-ce que ça ne poserait pas problème?
Cher Alain, je suis en train de dire que les royalties ne sont
Guy
pas
Maté.
Une taxe. Cher Guy, les royalties ne sont pas une taxe, c'est pas un impôt. C'est comme j'ai dit, c'est un droit de propriété. Donc c'est le propriétaire de la chose décide du montant qu'on lui donne. Ça s'est fait ailleurs, ça s'est fait en Zambie 2015-2016. Je dis aussi, c'est ce que vous avez dit en d'autres termes, et si je l'avais déjà dit, les deux parties doivent être souples. Notre fiscalité, elle est trop lourde. Et tout le monde se plaint, ça parfois ça décourage les investisseurs. Vous allez voir qu'en dehors du secteur des mines, d'autres secteurs n'attirent pas tellement parce qu'il y a trop de fiscalité, trop d'impôts qui tuent les affaires. C'est plutôt sur ce terrain-là qu'ils peuvent se battre avec différents partenaires pour qu'on puisse alléger. Et je sais que c'est sur ce terrain-là peut-être qu'ils vont aboutir. Il y aura certaines taxes, peut-être on va voir la loi fiscale, on va voir certaines choses. Mais pour le code minier, c'est là, le match est fait. Le règlement minier ne va rien résoudre. Il va s'aligner. Et pour le cobalt, il a été déclaré minier, il sera déclaré minerai stratégique. Je suis de ceux qui disent que le cobalt de la RDC doit profiter à la RDC. Et c'est ainsi que personnellement, avec les autres journalistes dans le Katanga et à Kinshasa, nous avons lancé la campagne « Ne touche pas mon cobalt ». Parce que notre cobalt, vous savez, c'est anormal. Est-ce qu'on peut faire la même chose sur le pétrole de l'Arabie Saoudite? Je me souviens, il y a quelques années, le feu président Hugo Chavez, quand le pétrole avait pris, les prix avaient flambé au Venezuela. Lui, c'était 50-50.
Merci,
Franck. La production, vous produisez, vous me donnez 50.
Merci.
Et puis, graissez avec vos 50.
Merci, on va vous redonner la parole,
Franck. À un moment, on ne doit pas toucher au cobalt.
Merci.
C'est stratégique. Là, il n'y a pas que le gouvernement, nous tous, nous allons le mettre debout.
On a compris.
Pour défendre ce que nous appelons la souveraineté économique.
On a compris, Jérôme Sekana. Il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient des Monnaies du Tout.
Pamanaï Moulumba Bavon. Je vous appelle à partir de la ville de Mweneditu, dans la province de l'Omami.
C'est un chantage à l'endroit de notre gouvernement, parce que ces opérateurs n'ont pas pu obtenir ce qu'ils cherchaient dans la rencontre avec le chef de l'État, et que la loi sur le code minier est promulguée. Ils veulent quitter l'Afrique pour pouvoir mettre la pression sur notre gouvernement en vue des prochaines négociations produites par le chef de l'État. Ils seront tenus au cas par cas.
Jérôme Sekana.
Voilà, il n'y a pas tellement, je dirais chantage à 50%, mais aussi il faut reconnaître que c'est leur droit de pouvoir se constituer en association, surtout que c'est la constitution d'une association. C'est un syndicat. Nous avons combien de syndicats en République démocratique du Congo? Vous adhérez à un syndicat de votre choix, même dans une seule entreprise, 4-5 syndicats peuvent venir et dire, écoutez, il bat sa campagne, il dit, bon, qui veut adhérer chez moi? Et c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc les miniers ont le droit de s'organiser. Mais en ce qui concerne le cas par cas, je voudrais expliciter un peu ça. Parce que j'ai eu la chance d'être au palais de la Nation lorsque le chef de l'État a reçu les G7 miniers. J'étais à la rotonde pendant les 8 heures du temps qu'a duré cette audience. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec le ministre de Mines, de parler avec...
Le 7 mars dernier.
Bien sûr, de parler avec le président de la FEC, de parler avec d'autres collaborateurs du chef de l'État, et même avec les miniers qui étaient venus. Je les ai vus débarquer très nerveux. Ils sont arrivés à c'était aux alentours des 19h15, très nerveux. Mais ils sont repartis souriants. Alors, quand on parle de cas par cas, ce n'est pas qu'on va prendre chaque entreprise de manière isolée et l'écouter et essayer de résoudre ces problèmes. Non, c'est par filière. Vous avez une filière des sociétés qui s'occupent, par exemple, du cobalt et du cuivre, parce qu'il faut reconnaître ici que le cobalt n'est qu'un bonus, hein. Les frais d'investissement, quand on investit pour exploiter le cuivre, et quand on exploite le cuivre, on tombe sur le cobalt et ça coûte extrêmement cher, on ne l'abandonne pas. Donc c'est exactement ça. Donc la première filière, ça sera la filière cobalt, donc cuivre cobalt. Mais on aura également, la filière or, par exemple. Hein, on peut également avoir la filière colombo tantalite.
Et à votre avis, Jérôme Sekana, à votre avis, cet examen au cas par cas s'est fait sans pour autant violer
on ne peut pas
les clauses contenues dans les codes miniers.
On ne peut pas énerver le code minier qui est une loi déjà promulguée par le chef de l'État et votée à une écrasante majorité au Parlement. C'est qu'on peut faire ce quoi? C'est-à-dire, il y a certains petits avantages. Par exemple, ce que venait de dire les confrères. Le code, les règlements miniers peut dire, par exemple, étant entendu que les sociétés minières qui exploitent en République démocratique du Congo payent ça, ils peuvent être exemptés de payer ça, et ça, le gouvernement peut faire, peut formaliser pour atténuer un peu la charge. Mais ne croyez pas que l'État, on peut prendre une mesure qui va énerver les codes miniers. Ça ne peut pas ça, il ne faut pas rêver. Et en plus, il faut comprendre que les miniers, ils doivent comprendre que la République démocratique du Congo doit jouir également de cette embellie-là. Ça fait très longtemps, l'ancien code minier nous procurait 800 millions de dollars l'an. Le nouveau code va nous procurer au bas mot 2 milliards de dollars l'an. Ce qui fait que si le cobalt, comme aujourd'hui nous sommes à 87 1000 dollars la tonne métrique, et avec toutes les projections, parce que la demande est très 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 forte sur le marché international. Merci. Il est fort possible que avant la fin de l'année qu'on arrive à 100 000, et lorsqu'on arrivera à 100 000, dites-vous que la République démocratique du Congo peut engranger plus de 2 milliards 500 millions. Merci. Ou encore 3 milliards de dollars, ce qui est une bonne chose pour notre
Merci,
gouvernement.
Merci, Jérôme Sekana. Israël Moutala, il y a aussi une réflexion à laquelle vous allez réagir, elle vient de Kisangani.
Freddy Bossimo Kissimi, depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Il n'est pas tard pour le gouvernement d'utiliser afin de trouver solution à ces drames qui enfoncerait de plus l'économie déjà au rabais vers la décombre. Comment ne pas bien traiter les entreprises minières pendant que nous avons une économie non diversifiée, reposant sur les matières premières dont le gouvernement ne dispose pas d'industrie de statut pour la matière, si ce n'est que celle des étrangers qui se décident de quitter aujourd'hui la FEC? Est-ce une manière pour les États, les sièges de ces entreprises, de lancer une action économique à notre pays qui verra ses compatriotes chômer car son économie basée sur les minéraux sera une descente aux enfers? Est-ce une manière pour le gouvernement de dire bye à ces entreprises par le biais des tests que contient les nouveaux codes miniers?
Israël Moutala.
Je comprends l'inquiétude, mais on n'en arrivera pas là, comme l'a dit Jérôme. Ils ne peuvent pas quitter. Ça veut dire que la nouvelle loi, le code minier, peut inquiéter ou effaroucher des nouveaux investisseurs. Pas ceux qui sont déjà là. Une mine, ça se construit, ça prend du temps. On a commandé, c'est beaucoup d'investissements humains, financiers, techniques et tout ça. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils vont démonter leurs usines pour aller où? Donc c'est absurde d'envisager qu'ils se retirent. Non, voilà. Mais les nouveaux peuvent justement regarder à deux fois avant d'investir pour voir si les conditions actuelles d'investissement leur sont favorables ou pas. Mais pour ceux qui sont là, ça veut dire Tenke Fungurume, Randgold, Ivanhoe, ils ne quitteront pas. Ils vont bouder, ils vont protester, mais ils ne quitteront pas.
Ils ne vont pas quitter parce qu'il y a des enjeux économiques importants. Mais au-delà de ces enjeux, est-ce qu'il n'y a pas d'enjeux politiques?
Non, il n'y a pas d'enjeu politique. C'est une question d'argent ici, tout simplement. Et c'est une question d'argent. Ça veut dire que...
Vous savez, ces gens-là, on les qualifie comme défenseurs des rois. Hein.
Oui, c'est vrai. Ça veut dire que s'ils sont méchants...
Jérôme Sekana l'a relevé. Il a dit que si les chefs d'État ne les avaient pas reçus, peut-être qu'aujourd'hui, on serait en train de vivre une nouvelle guerre en RDC.
Non, je crois pas. Les guerres, c'est pas aussi facile comme ça qu'on commandite les guerres et tout ça, c'est vrai. Mais c'est pas aussi facile. Il faut trouver des bases arrières et c'est pas facile. Ce sont des entreprises qui sont d'abord cotées en bourse. Et donc, il faut savoir que si une entreprise qui est cotée en bourse est impliqué dans certains scandales, il peut voir son cours s'effondrer. Donc c'est très compliqué. Ils ont des codes d'éthique et de transparence assez rigoureuses. Il s'agit de codes. Alors ici, j'aimerais dire un peu à revenir sur certaines choses. Ici, par exemple, quand Franck dit que voilà, il menaçait de quitter, mais ils ont quitté parce qu'on a révisé le code. Tout le monde n'est pas concerné par le conflit qui oppose la Gécamine à TFM. Et Paulet, c'est vrai, il est en Afrique du Sud, n'arrive pas à rentrer. Tumawaku n'arrive pas encore à occuper son poste poste de DGA malgré sa, la nomination par le gouvernement. Bref, mais c'est un problème qui se résume à la Gécamines, à TFM. Mais les sept autres, ils sont pas, les six autres, ils sont pas concernés par ce problème-ci. Et donc, Ivanhoe n'est pas concerné par le problème, l'affaire Claude Pollet. Mais tous sont concernés par le code minier qui a fondamentalement, justement, modifié les conditions d'investissement. La pression fiscale ici a été augmentée. Et donc, ça veut dire que plus de pression fiscale, ça veut dire moins de recettes pour eux, moins de ressources financières pour eux et plus, un peu plus pour l'État. Ils sont pas d'accord avec ça. Et donc, ils l'ont fait savoir en claquant la porte de la FEC.
Il y a un autre aspect, il y a un autre aspect qui a été relevé par Jérôme Sekana, c'est ce que l'État va collecter avec les nouveaux codes miniers. Il a rappelé que avec l'ancien, c'était 800 millions de dollars, mais avec les nouveaux, on pourrait arriver jusqu'à 2 milliards de dollars américains. Mais il se pose, il y a cette problématique, n'est-ce pas, de la gestion des ressources que l'État collecte. On dit qu'il s'est toujours posé un problème d'opacité, des répartitions de ces ressources.
Non, mais on a fait beaucoup d'efforts là-dessus quand même. Avec l'initiative ITE, on a pu quand même retracer certains flux financiers qui émanent du secteur minier. Donc pour les grands,
l'impact sur la société, c'est quoi?
Non, l'impact sur la société, c'est la question, c'est l'État qui gère. Écoutez, il y avait une clé de répartition. On vous avait dit par exemple la redevance qui est une taxe importante. Donc voilà, je vais pas entrer dans les subterfuges, ça veut dire une taxe. Donc qui a un prélèvement sur ce qu'on exporte. Donc on exporte une tonne de cuivre, on prélève un certain pourcentage sur ce qu'on exporte. Et donc, la tonne de cuivre est à 10%, est à 10 000 par exemple, quand elle était à 9 000 par là, l'État prélevait 2% ou quelque chose par là, par chaque tonne. Donc vous produisez 1 million de tonnes, vous avez, c'est une taxe importante. Sur cette taxe, il y avait une clé de répartition. 60% pour le gouvernement congolais, 40% pour la province. Et la province, le chef-lieu...
Et c'est l'arrivée à destination.
Ça n'arrivait pas. Donc
c'est ça le débat.
Alors vous, aujourd'hui, on a réduit. Maintenant, aujourd'hui, c'est 50% pour l'État et puis 10% ça va au fonds minier pour construire des réserves et les autres pour la province. Mais si l'État ne rétrocède pas ça, si les provinces comme le Lualaba, la province la plus riche de la RDC, n'a pas droit à ces 40%, ben, vous pouvez modifier le code comme vous voulez, les retombées seront difficiles. Donc ça c'est un autre problème. Sur les chiffres de 800 milliards de dollars de l'ancien code, c'est compliqué parce que toutes les entreprises ne sont pas entrées en production en même temps. Ça veut dire que quand vous entrez en production, il y avait 5 ans pour les amortissements, les autres ne payaient pas l'impôt sur le bénéfice. Il y avait d'autres qui étaient sous le régime de la convention. Une des grandes entreprises qui ne fait pas partie de ce communiqué, c'est Banro, qui est le deuxième producteur d'or après Kibali. Et donc voilà, il y a des entreprises comme ça. Toutes ces entreprises ne sont pas entrées en production au même moment. Donc il faut absolument avoir des données fixes. Ça veut dire que toi, à quel type quantité de production avec quel cours de cuivre pour faire ces analyses.
Merci.
Alors, j'aimerais encore revenir sur une chose. Même si on va filière par filière, qu'est-ce qu'on va changer? Si on va par exemple à la filière cuivre, qu'est-ce qu'on va changer? Parce que là, la loi dit clairement que pour la redevance, c'est 3,5%.
Et donc, les dés sont jetés.
Écoutez, je ne vois pas.
Plus espérer,
là où on peut justement un peu les ménager, c'est avec la TVA. C'était une taxe qui n'était pas prévue.
Merci.
Aujourd'hui, ils accumulent beaucoup de retard, des trésoreries, et c'est peut-être ici qu'on peut essayer de les ménager pour soulager leurs trésoreries.
Merci.
Mais par rapport à la loi elle-même, je ne vois pas comment est-ce que on peut s'en écarter.
Franck Fomba, il y a un commentaire pour vous qui vient de Lubumbashi.
C'est Patrick Mbouli Katama depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Je crois que ces entreprises sont lésées après la promulgation du nouveau code minier, oubliant qu'à 1980, celle la Gécamines qui produisait au moins 450 000 tonnes de cuivre contribuant autour de 70% des budgets de l'État. Et aujourd'hui, toutes ces entreprises minières sur l'étendue de la République produisent au moins 1 million de tonnes et contribuent à moins de 30% du budget de l'État. Quel paradoxe! Je pense que quitter la FEC ne change rien. Et ces entreprises sont là pour l'enrichissement d'un certain nombre de personnes au détriment de toute la population congolaise.
Franck Fomba?
Il n'a pas tort. Vous savez, à part le groupe Ivanhoe qui n'est pas encore en production, et d'ailleurs, comme j'ai dit, sont les très modérés. Et c'est à un moment, le PDG Robert Freeland, peut-être, il va faire raisonner les autres qu'il faut être dans la grande maison qui est l'Afrique pour faire les affaires ensemble. Sinon, nous prendrons ça comme une histoire de discrimination. Les gens ont raison. Toutes les entreprises signataires, je ne maîtrise pas trop, mais dans la filière cuivre cobalt, la plupart déclarent chaque année les états financiers, les bilans sont négatifs depuis qu'ils ont commencé. Donc la stabilité, même si on leur donne 20 ans, l'État n'aura jamais de dividendes. C'est là que je dis que je suis parmi les gens frustrés les Congolais frustrés. Et avec une équipe de gens comme cela, c'est ainsi que nous avons lancé la campagne pour sauver notre cobalt. Parce que si nous manquons ce tournant de cobalt, si on n'en profite pas, la République, le cobalt n'est pas renouvelable. C'est une ressource qui n'est pas renouvelable. Si nous perdons ce virage, on ne le gère pas bien, il y aura un problème. Notre pays, je ne sais pas si on décollera économiquement facilement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on doit bien gérer aussi les ressources. Nous faisons la campagne pour protéger nos ressources naturelles. Nous disons aussi à ceux qui gèrent qu'il faut bien les gérer, de façon à ne pas donner raison à ceux qui pensent qu'on les gère mal. S'il y a un problème de gouvernance, ça, je ne vois pas pourquoi les gens se gênent à fixer les choses. Le chef de l'État a toujours demandé que les clowns en cravate partent en prison. C'est à la justice de se saisir de certains cas et envoyer les gens en prison. Il y a de l'argent que l'État donne aux miniers, aux expatriés. Les expatriés s'agitent, mais oublient que l'État leur donne l'argent gratuitement à travers les analyses des labos. Les analyses, l'argent qui est payé pour les laboratoires, c'est l'argent qui est déduit sur la redevance minière. En principe, l'État paye les multinationales pour qu'elles fassent les analyses auprès des entreprises étrangères. Alors que nous avons des labos congolais auxquels il faut donner cet argent-là. C'est ce genre de choses sur lesquelles le gouvernement et les miniers doivent discuter réellement, pratiquement. Sinon, écoutez, les gens sont frustrés et comme dans le Katanga, on en a marre. On dit, on comprend. Il y a aussi un problème de politique, même si les amis ne veulent pas le reconnaître. Il y a un problème de politique. Depuis qu'on a promulgué le code minier, à travers le monde, on cherche les alternatives au cobalt. Ça, c'est de la politique. C'est du capitalisme sauvage. Depuis qu'on a promulgué le code minier, on cherche à développer des projets de cobalt en Australie, au Canada. On dit parce que la RDC est instable. Qu'est-ce qui est instable? Pendant 16 ans, comme Jérôme l'a dit, Franck, avec un code qui n'a produit que les états, que les bilans négatifs, l'État n'a rien eu, la population n'a rien eu.
Franck,
je pense que trop, c'est trop un moment. Oui.
Franck, nous sommes presque à la fin de l'émission, on va commencer à conclure. En guise de conclusion, que faut-il, parce que vous demandez à ce que les minéraux soient, les ressources naturelles de la RDC soient protégées. Maintenant, que faut-il pour que les retombées financières, n'est-ce pas, de ces ressources puissent profiter aux populations? Vous avez demandé à ce que la justice fasse son travail. C'est toujours facile de demander à la justice de faire son travail, hein. Ça a toujours été ça, la chanson de tous les jours. Mais dans les faits, rien n'est fait, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire de manière efficace, n'est-ce pas, pour que ces retombées puissent profiter aux populations?
Il faut la volonté de tout le monde. Il faut la volonté. On a vu, évidemment, le ministre de Justice a dit qu'il y a eu 200 magistrats fraudeurs. Ça veut dire qu'il y a des fraudeurs. Il y a de la volonté. La justice peut se saisir de beaucoup de cas qui ont été déjà dénoncés. La deuxième chose, l'État doit renforcer les capacités des gens qui travaillent dans le secteur des mines pour récolter les données ou pour récolter de l'argent.
Merci.
Dans les secteurs, dans les régies financières, on doit assainir.
Merci.
On doit enlever les brebis galeuses.
Merci.
On doit enlever les brebis galeuses.
Merci, on a compris. Jérôme Sukana, votre conclusion.
Oui, moi je soutiens la campagne, mais il faut l'étendre, pas seulement au cobalt, mais également au coltan et à d'autres minéraux. C'est légitime. Mais je voudrais que ceux qui vont réfléchir sur le règlement minier, nous avons un sérieux problème. On peut aller jusqu'à 3 milliards, comme je vous ai dit, si et seulement si on arrive à maîtriser, par exemple, les investissements par rapport aux amortissements. Là, les miniers sont en train de tricher, vu qu'en face, nous n'avons pas des experts capables de dégager tout ce qu'ils gonflent comme charge.
Et pourquoi on n'a pas ces experts?
Non, en tout cas, il y a un problème de formation et il faut vraiment systématiser les contrôles.
Merci.
Et en ce qui concerne les labos, je termine par là. Le labo qui peut donner des résultats qui peuvent être pris en considération, c'est les labos d'abord du CEC qui est à Lubumbashi, pas les labos de Tech Fungurume et Mining et toutes d'autres sociétés.
Vous allez votre conclusion?
Ma conclusion, c'est que d'abord, le modèle sur lequel on en repose notre économie, ça veut dire que exportation des minéraux ou de substances minérales et importation de substances de produits finis, on a tout faux, on ne va pas se développer comme ça. Pour se développer, il faut absolument créer plus de valeur ajoutée aujourd'hui. Et donc, nous sommes encore une fois à la merci de cours mondiaux. Aujourd'hui, le cobalt est haut, demain il sera bas, et dès qu'il devient bas, on sera où?
Merci.
Donc, il faut penser une autre économie avec les recettes actuelles.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci et bonne suite de programme sur Radio Capi.